Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. Chateaubriand disait de lui qu'il avait l'air d'une hyène habillée. Michelet écrivait que sa figure effrayait d'aridité. L'historien Albert Sorel le trouvait maigriot à face de fouine. Stéphane Zweig ajoutait qu'il était un traître né et un misérable intrigant. L'historien Emmanuel de Varesquiel, dont je m'inspire, a entre les mains des archives extrêmement récentes qui montrent un côté plus sympathique. À qui ? Eh bien, à Joseph Fouché, dont je vais vous raconter la vie. Il est baptisé le 23 mai 1759 en l'église Notre-Dame du Pèlerin en Loire-Atlantique, qu'on appelait à ce moment-là la Loire inférieure. La maison où il est né d'ailleurs existe toujours. Au XVIIe siècle, les Fouché possèdent quelques biens. Toute l'histoire de la famille finalement montre une longue et tenace ascension sociale. On porte le même prénom de père en fils. Le père fait des affaires dans le commerce des esclaves. Il est capitaine de navire. L'argent placé, on s'en sert pour acheter des terres, y compris une plantation de canne à sucre à Saint-Domingue. Joseph Fouché, le père donc, épouse une riche veuve le 22 mars 1751. Elle a deux enfants, Jacques et Marie. Désormais, le sieur Fouché signe « Noble homme Joseph Fouché ». Il donne à ses fils les noms des terres qu'il possède. Alors notre Joseph va devenir Fouché de Rouserolles. Sous la Révolution, il ne va pas du tout utiliser le de Rouserolles. Son enfance est plutôt solitaire. Son père est toujours absent. Sa sœur Louise a 7 ans de plus que lui. Il y a deux frères et deux sœurs qui sont morts. Puis il y a le père qui meurt alors qu'il est sur son bateau. Et Fouché en restera marqué. Il ne lui reste que son frère Julien, d'un an son cadet. On ne sait rien des liens qu'il a avec lui, pas plus que des liens qu'il a avec sa mère. À 6 ans, il entre dans une école fondée par Jean-Baptiste Soin. Il y apprend à lire, à écrire, et à 9 ans, on le met pensionnaire à Nantes, rue du Cloître de l'Oratoire, chez les frères Dutheil. Après la mort du père, la mère l'inscrit au collège de l'Oratoire Saint-Clément à Nantes, où il fera ses humanités, sa philosophie, sous la direction du père Durif, qui est le préfet des études. Alors ce collège, c'est le collège le plus prestigieux de la ville. À 12 ans, Joseph est un enfant malingre, les joues creuses et pâles, la voix faible. D'ailleurs, il va mourir à 61 ans de tuberculose. Si physiquement il est souffreteux, mais intellectuellement ça n'est pas ça du tout, il est très brillant. Il est si bon en latin d'ailleurs que dans ses lettres que nous avons, il fera souvent des citations latines tirées des Écritures. Dans les collèges oratoriens, on enseigne aussi à bien se tenir dans le monde et à s'exprimer clairement en toute occasion. L'obsession de l'érudition ne l'emporte jamais chez les oratoriens sur la recherche de la vérité, sur la clarté, sur le discernement et la formation du jugement. Alors dans ce collège, il y a de tout. Quand je dis de tout, il s'y côtoie aussi bien des fils de gentilshommes, d'armateurs, de négociants. Et Joseph, lui, eh bien on peut dire qu'il est d'une condition sensiblement inférieure. Alors il se lie avec des camarades, mais des camarades de son milieu. Et un bon point pour lui, toute sa vie, il va s'entourer de ses anciens camarades d'enfance et d'études. Alors les études se terminent, sa mère, grâce à des relations au sein du clergé de Nantes, obtient ce qu'on appelle la tonsure en 1776. La tonsure, c'est le premier sacrement pour devenir prêtre. Mais Fouché ne le sera pas parce qu'il n'ira jamais au-delà. En tout cas, ça lui permet au moins d'avoir une rente. On sait que, par exemple, Chateaubriand avait été aussi tonsuré à Saint-Malo. À la fin de l'été 1781, Joseph quitte Nantes pour Paris. Pourquoi faire ? Eh bien, il entre chez les pères de l'oratoire, rue d'Enfer dans le faubourg Saint-Jacques, tout près de l'Observatoire. Le 21 novembre 1781, il commence donc ses études parisiennes. Il y suit une année de théologie avant d'être admis à enseigner dans les collèges de la congrégation. Et quand on enseigne, on prend le titre de « confrère ». Et les confrères ne sont pas prêtres, attention, ils ne reçoivent pas de sacrement, ils ne font aucun vœu. Et ils peuvent même retourner à la vie laïque s'ils veulent, ils peuvent se marier, mais en attendant, ils doivent respecter les règles et la discipline de l'oratoire. Alors, quelles règles ? Écoutez ça, on se lève à 4h du matin. Et on se couche quand même à 20h. Dans ses mémoires, Fouché rend hommage au supérieur, le père Méraud de Bizy. D'ailleurs, ce père-là, comme beaucoup d'oratoriens, va adhérer à la Révolution. Et Joseph le consultera souvent à l'époque du Concordat. Et en 1802, il le fera même nommer grand vicaire de l'évêque d'Orléans. Alors Fouché sort de l'institution de Paris à la fin de l'été 1782. Et il devient régent de 6e au collège de Niort, puis ce sera Saumur, Vendôme et Juilly, le 26 septembre 1785. Vous savez que le collège de Juilly a existé jusqu'en 2012. J'ai eu des élèves qui y sont allés. Après ça, il arrive à Arras. Est-ce qu'il est bon professeur ? Eh oui, il est même excellent. Il aime ses élèves, c'est un excellent pédagogue qui croit sincèrement à l'amélioration de l'être humain par la bonté des Lumières et les bienfaits de la connaissance. Et ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les sciences physiques. Il fait des expériences sur l'électricité et sur la dilatation des gaz. Il survole même la ville de Nantes en ballon en 1791. Il est donc au collège d'Arras. Le préfet des études, le père Honoré Spitalier de Saillant, le fait entrer dans la franc-maçonnerie qui est très en pointe à l'époque, pour préparer les esprits à la veille de la Révolution. À Arras, Joseph ne manque pas une occasion de pénétrer les cercles du pouvoir en place. Il fréquente l'Académie d'Arras, dont le président est Maximilien de Robespierre. Lorsque Fouché le rencontre, Maximilien habite avec sa sœur Charlotte et son frère Augustin une très belle maison d'angle. C'est là qu'il prépare son élection aux États généraux comme député du tiers-État et de la ville d'Arras. Dans ses mémoires, Joseph dira de Robespierre qu'il est envieux, haineux, vindicatif. Nous allons faire une première pause musicale. Août 1790, Fouché quitte le collège d'Arras pour celui de Nantes, où il est nommé principal du collège Saint-Clément où il a fait ses études. Il supprime les punitions corporelles et il institue un contrôle continu. Il s'appelle désormais Monsieur Fouché. Il ne porte plus la soutane et s'octroie tous les pouvoirs de police et de discipline sur les élèves, mais aussi sur les maîtres. Et il se lance tout de suite dans l'arène politique. les clubs et les sociétés patriotiques se multiplient à Nantes en 1790. Alors il en devient un membre important et il s'y fait des amis. Ces sociétés sont encore bourgeoises et assez conservatrices. Fouché y fait des discours, mais il n'est pas très bon en orateur. Qu'est-ce qu'il dit dans ses discours ? Qu'il faut faire table rase, que la souveraineté est à la nation et non pas au roi. Il est déjà du côté de la violence et du droit à l'insurrection. Oui, mais pour l'instant, il est pour le maintien de la traite des Noirs, sur laquelle sa famille a fondé sa fortune. Et au passage, je peux vous dire qu'il aura beau célébrer publiquement l'abolition de l'esclavage sous la terreur, il ne cessera d'agir en sous-main, c'est toujours sa façon de faire, en faveur des intérêts du commerce colonial. En 1791, il se présente aux élections pour la nouvelle assemblée, une assemblée qu'on appelle l'assemblée législative et qui succède à la constituante. Il est élu, bon dernier de justesse. Alors il entretient depuis 2 ans des liens avec une famille de Nantes, les Coicot, père et fils. Il fait la cour à la fille de la maison qui porte un prénom assez original, elle s'appelle Bonne Jeanne. Elle a 27 ans, elle a reçu une éducation soignée, elle est bonne musicienne, elle est rousse et paraît-il, elle est laide. Mais c'est un mariage réussi. Pour eux, le mariage est un refuge absolu, une forteresse. Ils auront 7 enfants, dont 3 vont mourir en bas âge. On ne connaît à Fouché aucune maîtresse. Sa seule passion, c'est celle du pouvoir. Et pour Fouché, la femme doit être une bonne épouse et une bonne mère. Il donne des conseils à sa sœur, d'ailleurs, pour l'éducation de ses nièces. Et il dit à sa sœur, surtout pas de fantaisie. Bonne Jeanne se montre peu, mais elle conseille et elle pousse son mari. Après le mariage civil, il y a, et il ne le dira pas trop, un mariage religieux. Pourtant, dans moins d'un an, Fouché fera fermer les églises de Nevers et de Moulins à toute forme de culte. Avec lui, l'homme politique et l'homme privé divergeront toujours. Après avoir été élu à l'Assemblée législative, il l'est maintenant à la Convention. C'est la dernière des 3 assemblées de la Révolution. Nous sommes le 21 septembre 1792 et on a proclamé la République. La veille, il s'est passé quelque chose d'important. La veille, 20 septembre 1792, Dumouriez a vaincu l'armée prussienne à Valmy. Cette armée prussienne où il y avait aussi beaucoup d'aristocrates français qui s'étaient réfugiés à l'étranger. Le roi et sa famille sont au temple, la monarchie est abolie et on s'apprête à soumettre au peuple une nouvelle constitution. Alors Fouché s'installe avec sa femme dans un garni très modeste au 315 de la rue Saint-Honoré. Il siège dans divers comités, aux finances, à l'instruction publique, à la gestion de l'ancien domaine royal, au comité de la marine et des colonies. Ça l'intéresse, hein, ça. C'est dans ces comités que s'élaborent des projets de décrets qu'on va soumettre après à la Convention. Dans tous ces comités, il s'y fait des amis. Il se dit toujours que ça lui servira. Eh bien, il voit juste, parce qu'en effet, ça lui servira. C'est la même chose au club des Jacobins, où se trouve qui donc ? Robespierre ! Jusqu'au procès du roi qui s'ouvre le 5 décembre, Joseph est très prudent. Sans être de l'avis de tout le monde, il ne froissait l'avis de personne. On remarque la souplesse de son esprit, il est très discret. On l'aperçoit à peine, il n'aime pas parler en public, il préfère les entretiens particuliers. Il a un langage extrêmement châtié, ça jure un peu dans la Convention. Sa violence, finalement, on ne la retrouve que dans ses écrits. Il penche du côté gauche de la Convention et il vote la mort de Louis XVI. À l'appel de son nom, il s'est glissé, faussement indifférent, jusqu'à la tribune, souple, grand, grêle, placide, froid. Quelqu'un dit de lui... Je ne sais quoi de féroce, d'élégant et d'agile le fait ressembler à une panthère. Il a le visage glabre, pâle, avec des taches de rousseur, les cheveux bleus blonds fades, le nez en lame de couteau, la bouche sans lèvres, des yeux de poisson mort, gris, sans expression, petit, rapproché, fixe aux paupières lourdes, tout est anguleux chez lui. Et si vous voyez un portrait qu'on voit souvent, c'est exactement ça. Dans ses mémoires, Barrère dit qu'il était d'une laideur proverbiale, dont lui-même d'ailleurs se moque. Pas Barrère, hein ? Fouché se moque de lui-même. Cet homme qui vote la mort du roi est inquiétant, silencieux, dissimulé. Il ne changera pas. Le vote de la mort du roi a séparé la Convention en deux, finalement. Alors il y a les Girondins d'un côté, on dit les Girondins parce que beaucoup des députés étaient de la Gironde, qui auraient voulu la récollusion et pas la mort du roi. Et puis les Montagnards, on les appelle Montagnards parce qu'ils sont assis en haut sur les gradins de la Convention. Eux, les Montagnards, c'est la mort. On a peu de traces de l'engagement de Fouché auprès de la montagne dans les premiers mois de 1793. Cette année-là, le peuple de Paris remue beaucoup à cause de la crise des subsistances. Quand Joseph parle du peuple, il en a une vision froide et raisonnée. Il y voit une force immense et passive qui demande à être encadrée, guidée et éduquée. Par qui ? Par les idées de Fouché, bien sûr. Le 9 mars 1793, la Convention vote la levée de 300 000 hommes pour combattre l'armée étrangère dans laquelle se trouvent beaucoup d'immigrés. Fouché est nommé alors l'un des 82 commissionnaires chargés d'organiser la levée des volontaires dans les départements. D'ailleurs, tout va mal en France. L'Angleterre et la Hollande sont entrées en guerre contre la France. Le 1er février, elles sont rejointes par l'Espagne. Et à l'intérieur, l'Ouest et le Midi commencent à bouger. On assiste à une crise à la fois économique, sociale et politique.
Enfin, voilà que c'est donc fini. Adieu, Vierge, adieu, mystère. Je n'allons plus être trahis par tous ces contes de grand-mère. Je compte en pâme votre fouet, Chabon-Bincan ne peut pas faire trouer. Chabon-Bincan ne peut pas faire trouer. Ce morceau de papier mâché qu'on nommait Eucharistie sans crainte de faire un péché ni nous donner dans l'autre vie. Le pape m'a tempêté, j'en faisons des pas à cacheter, j'en faisons des pas à cacheter. Avec l'extrême onction, j'assaisonnons nos salades de la régénération. On se guérit aux malades. Pour tout vrai républicain, c'est un remède souverain, c'est un remède souverain. N'invoquons plus dans nos chants l'abbé Jésus ni Marie. N'avons d'odieux à présent que la liberté et la patrie. Les devoirs de notre religion, c'est de soutenir la Constitution, c'est de soutenir la Constitution. Ce bâtard nommé Jésus était fait par son père. Ou par un pigeon battu, il n'y a pas qu'il a fait un mystère. Faut pas t'en chercher de rému pour dire que Joseph cocu, pour dire que Joseph fut cocu. Plus dans son lit de démons pour célébrer la victoire, la fumée, le bruit du canon, la lance en faute à la victoire. veni sancte, chantons l'hymne à la liberté, chantons l'hymne à la liberté. Marcher au pas, que c'est faire l'histoire de Gina, que c'est faire l'histoire de Gina. Si je faisons quelque action, si je mourons pour la patrie, on nous place au Panthéon, je m'aime que dans une litanie. Notre épitaphe, la voilà, c'est un vrai sans-culotte qu'elle a, c'est un vrai sans-culotte qu'elle a. Quand je trouve des mécréants qui renions la République, je n'en perds pour aux arguments, à tous fatras théologiques. Je convertis ces entêtés en armée dans la tête. En armée dans la tête aux
Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et je suis en train de vous parler de Joseph Fouché. La Convention prend des mesures de salut public. Elle crée le tribunal révolutionnaire le 10 mars et le comité de salut public le 6 avril. Ce seront des horreurs tous les deux. Joseph Fouché quitte donc Paris avec sa femme pour Laval. Il est chargé de superviser les opérations de recrutement dans les départements de la Mayenne et de la Loire inférieure à l'époque. Alors, de quel pouvoir est-ce qu'il dispose? Eh bien, des pouvoirs extrêmement étendus, d'ordre militaire d'abord, mais aussi politique, auprès des administrations locales, qu'il secoue beaucoup en trouvant qu'elles ne sont un petit peu tièdes. Il peut les contrôler, voire les épurer. On lui donne aussi le droit de prendre toutes les mesures qui paraissent nécessaires pour établir l'ordre partout où il sera troublé. Quand il arrive à Laval, Fouché y trouve une situation peu sûre. Il y a des bandes de chouans qui font main basse sur les transports de grains et qui attaquent les postes isolés de garde nationale. Tout un petit peuple des campagnes est dans la révolte. Si bien que les volontaires pour l'armée se font rares. Fouché alors prend ses premières mesures de police. Il fait arrêter préventivement tous ceux qui paraissent suspects et dangereux. Et dans les lettres qu'il envoie à la Convention, il montre l'anarchie qui règne et le beau rôle qu'il a. Il arrive à Nantes le 25 mars. Il dénonce la mollesse des autorités, et en particulier du maire. Le maire, c'est un bourgeois bontain qui serait plutôt du côté des Girondins. Il crée le 1er avril 1793 un comité exécutif composé de 6 membres. Et voilà ce qu'il dit. Surveiller avec la plus sévère exactitude les riches, les prêtres, les négociants, les accapareurs, les égoïstes, les aristocrates, que l'arme des républicains, c'est-à-dire la baïonnette, leur passe au travers du corps. Il fait dresser des listes d'étrangers et de suspects. Le port de la cocarde devient obligatoire sous peine d'arrestation. Pour Fouché, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a que des traîtres qui doivent être éliminés. À Nantes, Joseph agit vite, sans état d'âme, froidement, méthodiquement. Le 30 avril, il est rappelé à Paris par la Convention. Et il est maintenant plus que jamais du côté des montagnards. Le 24, il est envoyé dans les départements du centre et de l'ouest pour y lever toujours, n'est-ce pas, des armes et puis des volontaires, et pour lutter contre les rebelles de Vendée. Alors il stimule les énergies, il réquisitionne, il enrôle. De force, bien sûr. Il circule beaucoup et pendant qu'il est à Nevers, par exemple, Bonne Jeanne met au monde une fille. Une petite fille qui ne vivra pas, d'ailleurs. La situation est explosive en France. Paris se radicalise, les rebelles de Lyon font peur. Des partisans rebelles se cachent dans les forêts de la Nièvre et terrorisent les paysans dont ils prennent les récoltes. La Vendée à l'ouest est terrifiante. Il est temps de frapper un grand coup contre les riches. À Nevers, le 25 septembre, Fouché décrète la saisie systématique des objets d'or et d'argent détenus par les particuliers les plus aisés. Et ceux qui n'obtempèrent pas sont punis comme contre-révolutionnaires. On peut dire qu'il ne s'enrichit pas, parce que tout ce qu'il confisque est envoyé à la Convention. Toute une série d'autres mesures relatives à l'approvisionnement suivent. Les propriétaires récidivistes qui conservent leur récolte ou ne sèment pas risquent d'être incarcérés et de perdre leurs biens. L'économie est mobilisée au service de la République assiégée. Les mauvais riches n'ont qu'à aimer la République et à payer. C'est le raisonnement de Fouché. On installe la guillotine à Moulins, à Nevers. La souveraineté du peuple, la paix sociale et la survie de la République sont à ce prix. Et maintenant, Fouché s'attaque aux prêtres. Il dénonce les prêtres et leurs dogmes pour les renvoyer à la vie laïque, à la prison ou à la déportation. Plus de croix sur les tombes. Les funérailles sont forcément laïques. En février 1794, par exemple, 61 prêtres de la Nièvre sont envoyés à Brest pour y croupir sur les pontons et 15 seulement survivront. On démolit les clochers, on brise les croix, on débaptise les villages et les rues. Il n'y a plus de saints, il n'y a plus de prénoms chrétiens. Fouché, par exemple, appelle sa petite fille qui vient de naître là. Il va la prénommer Nièvre, du nom du département. Fouché est l'un des premiers à entraîner la révolution dans une spire radicale et jusqu'au boutiste, qui ne se fera pas, bien sûr, sans violence ni conséquence. Le 30 octobre, la Convention l'envoie à Lyon pour y faire appliquer les décrets pris par elle contre la ville rebelle. Alors je résume quand même, mais la ville de Lyon doit être détruite. Elle perdra son nom et s'appellera désormais Ville Affranchie. Lorsque Fouché arrive à Lyon, la République n'est pas sortie d'affaire. Parce qu'au nord, les Anglo-Hollandais assiègent Dunkerque. Les Autrichiens sont devant Maubeuge. Les Prussiens occupent une partie de l'Alsace et de la Lorraine. Les Espagnols investissent le Roussillon. Et à l'intérieur, la situation n'est pas meilleure. Les Vendéens ont traversé la Loire et vont faire la jonction avec les Anglais dans le Cotentin. À Toulon, les insurgés ont ouvert le port aux Anglo-Espagnols. À Paris, les 21 députés girondins sont exécutés. Le 31 octobre, la reine est montée sur l'échafaud, le 16, elle. Le 7 novembre, c'est le tour de Philippe Égalité, qui pourtant a voté la mort de son cousin. Alors Lyon, où la Convention envoie Fouché et Collot d'Herbois, c'est une ville riche. C'est la deuxième ville de France. Elle est riche par son industrie, son commerce. Les idées révolutionnaires ne lui conviennent pas du tout. Donc, décide la Convention, il faut la mater. Et alors, je vous résume, mais c'est une véritable terreur. La guillotine va fonctionner sans arrêt, les fusillades aussi. Il ne restera, quand Fouché va s'en aller, qu'un quart de la population. Et Fouché va se réfugier derrière Collot d'Herbois pour dire que « Ah non, ça n'est pas lui, c'est Collot qui l'a entraîné. » Mais on possède ses lettres qui montrent sa responsabilité entière. Pour Fouché, finalement, la terreur, c'est un médicament pour arriver à l'application de ses idées. Il faut une révolution totale, politique, sociale, économique, culturelle, pas moins. Fouché quitte Londres le 1er avril 1794 et arrive à Paris le 5. Il s'y installe avec sa femme, rue de la Convention, actuellement c'est la rue Saint-Roch. La Convention alors lui dit de rendre des comptes de sa mission à Lyon, acquis au comité de salut public. Et Robespierre, entre parenthèses, très jaloux de Fouché, traite le rapport d'incomplet et il resserre l'étau pour faire tomber Fouché. Il est le président de la Convention, il domine le comité de salut public. Ce que Robespierre n'aime pas, c'est que des hommes comme Fouché aient l'audace de gouverner à leur fantaisie. Nous allons faire une dernière pause musicale. La loi accélère les procédures de jugement du tribunal révolutionnaire. On définit d'une façon vague une nouvelle catégorie de coupables qu'on appelle « ennemis du peuple ». Fouché est désormais à portée des griffes de Robespierre. Et il n'est pas le seul. Tout le monde sur les bancs de la Convention a peur que la terreur redouble. Il n'y a pas que des aristocrates et des prêtres dans les charrettes. Les révolutionnaires se tuent de plus en plus entre eux. Robespierre est plus puissant que jamais. Il aime passionnément le pouvoir, comme Fouché. Maximilien est un dictateur froid, distant, impassible, les lèvres minces, les yeux troubles et fixes derrière des verres fumés. Il avait des lunettes vertes, paraît-il. Il est poudré, ganté, boutonné, les chaussures à boucles d'argent, le pantalon de nankin blanc, l'habit bleu, impeccable. On peut dire que les deux hommes se haïssent. Alors chacun compte ses amis, c'est la guerre. Robespierre attaque en pleine convention les 11 et 14 juillet. Il accuse Fouché d'être le complice de l'aristocratie et de l'étranger, de n'avoir exercé la terreur à Lyon que pour persécuter les vrais patriotes. Il s'en prend à l'homme et à son caractère et tout y passe. La dissimulation, la bassesse, l'imposture, le mépris. Il attaque même son physique. Fouché n'est pas là pour l'entendre. C'est dommage. Mais s'il n'est pas là, dit Robespierre, c'est qu'il se cache, qu'il a peur, donc il est coupable. Alors Fouché est aux aguets, mais incroyablement lucide et entièrement maître de lui. Il n'y a pas une minute à perdre, il faut se montrer. Eh bien, le génie de Fouché, c'est de savoir manier les peurs. Il dit partout que Robespierre tient une liste funèbre de coupables dont il est, lui, Fouché. et il prévient ceux qui, dit-il, figurent sur la liste qui va leur arriver, la guillotine. Ce qui aide Fouché, c'est qu'au comité de salut public, on s'agace de la position dominante de Robespierre et ses amis. Le 23 juillet, j'utilise maintenant le calendrier républicain, le 5 Thermidor, Robespierre se rend au comité de salut public où il n'est pas venu depuis longtemps. Le 26 juillet, 8 Thermidor, Fouché n'est pas à la convention. Robespierre fait un grand discours contre les factions et les députés corrompus. Il dénonce une vaste conspiration et en disant ça, il fixe certaines personnes comme Cambon du comité des finances ou Collot d'Herbois ou Billot-Varenne ou Vadier ou Voulan ou Amar ou Élie Lacoste du comité de sûreté générale. Vous pensez bien que ces gens-là, ils ne vont pas tarder à être du côté de Fouché. Eh bien, Robespierre commet une faute en affolant ce qu'on appelait le Marais. Le Marais, ça peut correspondre au centre actuellement, si vous voulez. Il fait peur à tout le monde. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 1794, la conspiration se noue. Le 27 juillet, sur les 749 députés de la Convention, ils sont à peine 300 assiégés, parce que les autres ont peur. Saint-Just, l'ami de Robespierre, commence son discours. Et soudain, Tallien qui est un acteur, l'interrompt. Et il dit « Il faut en finir !» Et c'est le signal. La convention se déchaîne. On empêche Robespierre de parler. On entend même « Abat, abat le tyran !» Les injures fusent de toutes parts. Et il semble bien sûr que toutes les peurs se libèrent. Robespierre, son frère, Couthon, Saint-Just sont conduits par des gendarmes au comité de sûreté générale. Pendant 4 heures, Fouché, sur son banc, n'a pas bougé d'un cil. Il n'a pas parlé, il n'a pas crié. Sa haine est muette. Le lendemain, 9 Thermidor, Robespierre est guillotiné. Et sa mort sonne la fin de la terreur. On va ouvrir les prisons, les arrestations arbitraires cessent, la guillotine s'arrête. Et Fouché ! Eh bien, s'il réussit à neutraliser son successeur à Lyon, à qui il écrit régulièrement en se faisant passer pour celui qui, à Lyon, a sorti, n'est-ce pas, beaucoup de gens, des griffes de Collot d'Herbois et de Robespierre. Oui, mais il n'empêche pas les représentants de Moulin d'orchestrer une véritable campagne contre lui. Il le dénonce à la Convention. Des lettres arrivent de Nevers, de Clamcy. Il est traité de monstre sanguinaire, de tyran, d'imposteur, de fléau. Face à ce déluge vengeur, Fouché ne perd pas pied. Il bombarde la presse d'articles pour se défendre. Il rédige un mémoire dans lequel il classe les chefs d'accusation et les réfute un par un. Il rencontre, et c'est là qu'il arrive à quelque chose, un nombre incroyable de personnes qu'il réussit à retourner en sa faveur. Le 9 août 1795, il est à la Convention. Son cas est évoqué. Le député Jean-Baptiste Giraud-Pouzol commence la lecture des innombrables dénonciations. À la fin de la séance, Joseph Fouché est décrété d'arrestation. Mais pressentant cela, il s'est éclipsé discrètement dans la soirée pour se fondre et disparaître dans Paris. On ne le verra plus pendant des mois. Personne ne le trouve ou ne veut le trouver. Le 14 octobre, l'Assemblée vote l'abandon des procédures et l'élargissement de ceux de ses membres qu'elle avait condamnés. Ils sont définitivement amnistiés le 25 octobre. La Convention cesse. On passe au directoire qui invite quand même Fouché à se tenir tranquille. Fouché est libre, mais il n'est plus rien. Nous le retrouverons la semaine prochaine.